Les amis, notre dernier invité de la saison est une légende de la radio. Oh,
c'est Pierre Belmar.
Hein? Mais non. Ah bon? Quelqu'un de la maison qu'on côtoie de très près tous les jours.
Ah, oui. Le monsieur avec la pipe, du bureau d'en face.
Ah, oui. Le monsieur avec la pipe, enfin, Juliette. On parle du spécialiste de l'histoire sur France Inter, un puits de connaissances.
Ah, mais attends, mais on reçoit Jeannot, oh, j'adore. Il paraît qu'il écoute tous les matins une archive de Radio Londres. C'est sa morning routine.
Mais oui, travaille en face, il va t'entendre.
Ah mince.
Oui, ben un peu de respect, hein, parce que Jeannot, il était déjà à la radio avant même qu'on soit né. Hein.
Puisque je vous entends, si vous permettez, j'ai commencé à France Culture en 1986. Jacques Chirac entrait à Matignon.
Oh là là.
Mais il est hyper pointu, Jean Lebrun, vous êtes sûr qu'on sera à la hauteur?
Non, mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus, c'est surtout qu'on a foutu le bordel toute l'année en face de son bureau.
Ah bah oui, c'est sûr, ça fait deux salles de ambiance.
Bah c'est un peu la douche écossaise, ce couloir, là.
Voir la douche Saint-Pierraise et Miquelonaise.
Hein?
Quoi?
Jeu de mots, archipélien, vous l'avez?
Non.
Mais
non.
Si, mais enfin, rapport à son livre sur Saint-Pierre et Miquelon, la météo, elle est dégueulasse comme en Écosse, vous voyez?
Oui.
Non mais en tout cas,
son livre est aussi précis que passionnant, hein. On a à cœur de faire encore mieux que d'habitude.
Tout commence en 1941, lorsque De Gaulle envoie la minuscule armada, trois navires et un sous-marin, sur cet archipel qui sera ensuite le théâtre de luttes d'influence entre Vichyards, partisans de Vichy, et de gaullistes, français libres.
Vous entendez comme c'est clair, précis et documenté. Moi, ça me colle une de ces pressions.
Bonjour, honneur et patrie.
Bonjour, Jean.
Salut Jeannot.
Pas de pression. Vous pourrez quand même ranger un peu cette chambre d'enfant qui vous sert de bureau.
Oui.
Pour les sujets de discussion, 5 sur 5. J'ai tout disposé à vous aider.
Non, mais t'en fais pas, Jean. Tout est prêt. Là, on peaufine. Je pense qu'on a rarement autant travaillé une émission.
Très bien. Bah, à tout à l'heure.
Hein? Il est parti.
Oh là 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 là.
Ferme la porte. Guillaume.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Va me chercher mes malais, Isaac.
Mais qu'est-ce que c'est qui ça?
C'est des bouquins d'histoire, Andouille.
Ok.
Tu tapes Deuxième Guerre mondiale sur Wikipédia.
D'accord. Mais ça vient à Miquelon, c'est dans quel océan déjà?
Je sais plus.
Quel océan? Enfin, l'Atlantique, jeune ignorante.
Bienvenue chez les saltimbanques d'investissement de la blague, dont voici la devise « Attention à la marche de l'histoire ». Voici le sommaire. Juliette.
Mais oui.
Ah bah voilà, bah oui.
Et moi j'ai écouté la chaise.
Mais ouais.
La plus probable victoire du RN au régional devait avoir lieu en PACA en propulsant Thierry Mariani, ex-RPR, UMP, LR et finalement... C'est Renaud Muselier, ancien du RPR et de l'UMP, toujours LR, associé à la LREM qui a vaincu. Bref, un vrai barrage républicain à lui tout seul sur ses terres méridionales. On l'appelle désormais...
Une loi qui vient d'être votée par le Sénat ferme l'accès aux archives publiques et c'est une première en France. La loi en question est relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement. Et elle a pour conséquence que les archives vivent un moment historique.
Ça fait plusieurs années que je demande mon dossier à l'administration, mais ils ne m'ont jamais donné. Ils disent que c'est pour mon bien. Ils ne me connaissent pas, mais ça, c'est bien pour moi.
Jean Dujardin incarne Nicolas Sarkozy dans une comédie politique signée Anne Fontaine. Nous attendons avec impatience de voir une comédie qui raconte la comédie politique qui se joue déjà sous nos yeux tous les jours. Et hâte de voir aussi Grégory Gadebois dans les habits de François Hollande.
C'est un film qui nous manipule. Et nous cherchons toujours où est l'adversaire. Alors quelquefois, nous l'avons près de nous.
Et à mes côtés, Juliette Arnaud.
Et à nos côtés, Charlie, une équipe, bah, tout simplement en l'honneur de notre invité d'historien, avec d'abord tout ce que vous avez toujours voulu savoir, non pas sur le sexe, quoique, mais sur l'histoire de la musique, bien sûr, le mélisme, le mineur, le majeur, avec beaucoup de Deleuze au milieu. Tout ça, vous le saurez avec André Manoukian, bien sûr. Bonjour André.
Bonjour Juliette, bonjour Charline. Je vais vous parler d'une chanteuse formidable qui s'appelle Annie Lalalove. C'est pas beau ce nom?
Ouais, c'est pas son vrai nom.
Si.
Génial, donc c'est une prédestinée. Ensuite, les gens disent qu'il est l'enfant naturel et vegan de Pierre Bourdieu,
oui,
au vu du CV de ses groupies. Pour autant, en vrai, c'est un mémorialiste puisqu'il archive les témoignages de notre temps pour le pire et
pour le pire. Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure du bilan de la saison. Et qui dit bilan dit Edith. Eh oui, ça faisait longtemps. Mais bien sûr, je l'ai appelée. On a parlé de plein de choses, de foot, de politique, de la défaite de la République en marche au régional.
C'est bien fait pour leur gueule.
Et je dois dire que je partage cette analyse d'Edith.
Enfin, quelle chance d'avoir parmi nous celui qui sort à la rentrée littéraire une anthologie de l'histoire de la raclette à travers les âges. Laurent Deutsch, après en avoir lu Les Bonnes Feuilles, aurait dit « Waouh, je suis sur le cul ». Bonjour Aymeric Lomprey.
Bonjour.
Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ?
Je fais une chronique aujourd'hui ?
Ouais.
Bon, je vais écrire un truc. Hein.
Ouais, voilà. Vous passez en dernier, vous avez tout votre temps.
Et voici celui... qui va mettre son intelligence au service de la gaudriole et de l'actualité. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes là. Vous êtes...
Bonjour, honneur et patrie, Jean Lebrun.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Armeau.
Par Jupiter.
Bienvenue Jean Lebrun. Nous ne vous présentons pas aux auditeurs. Nous n'allons pas leur faire ça, bien sûr. Jean Lebrun, vous publiez un essai intitulé « Ici, Saint-Pierre et Miquelon ». Ici, car vous faites référence à Radio Londres, puisque votre essai raconte le rôle qu'a joué le petit archipel pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que beaucoup d'entre nous savent à peine situer Saint-Pierre et Miquelon sur la carte, et qu'on sait juste que le savoir-faire principal, c'était la pêche à la morue. Et vous nous le rappelez d'ailleurs dans cet ouvrage, parce qu'on l'avait aussi oublié.
Et oui, c'est la première mondialisation, la mondialisation du pauvre.
Et voilà.
La morue ne coûtait pas cher.
Et oui. Même dans la chanson de Laurent Voulzy, il n'y a pas de Saint-Pierre et Miquelon, c'est vous dire. Ah oui. D'où cette question. Fallait-il réhabiliter ce petit territoire français situé de l'autre côté de l'Atlantique, le réhabiliter dans l'histoire?
Oui, mais vous venez d'outre-Kiévrien. Mmh. Moi, je viens de Bretagne. J'ai été conçu. Parce que figurez-vous que je sais la date de ma conception.
Ah bon ?
Précisément, un 15 août, vers le milieu du siècle précédent. Dans un lit de capitaine Terre-Neuve.
Dans un lit de ?
Capitaine Terre-Neuve. Les Terre-Neuviers sont les bateaux qui vont à Terre-Neuve pour faire la saison de la morue. Hein. Les Terre-Neuvards sont les marins qui vont dans les Terre-Neuviers.
Voilà.
Mais qu'est-ce que vos parents faisaient dans ce lit ?
Et une même brume entourera leurs ébats et entoure Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un petit archipel, mm-hmm. tout petit. Des chieurs de mouches, disent les administrateurs coloniaux qui y sont nommés. Et à 30, 40, 50 kilomètres au maximum de Terre-Neuve, habité par les Newfoundlanders. Vous voyez ? Et une brume déclenchée par la confluence, suivez-moi bien, Guillaume, du courant du Labrador, eau froide, et du Gulf Stream, eau chaude, entoure les deux territoires. Ce qui permet au galopeur d'intervenir de l'un à l'autre. Le galopeur, comme son nom l'indique, est un bateau.
Qui fait la liaison entre Saint-Pierre et Miquelon.
Enfin, une liaison un peu clandestine.
Oui.
Entre Saint-Pierre et Terre-Neuve.
Et Terre-Neuve, pardon.
Ah, oui. Une liaison propice à toutes sortes d'opportunités, de trafics divers.
Notamment...
Et pendant la guerre, au passage... Taisez-vous, jeune ignorant. Et pendant la guerre, au passage, des jeunes Saint-Pierrais vers Terre-Neuve, ce qui leur permettait de rejoindre en 40-41 la France libre.
On comprend pourquoi cela vous passionne, Jean Lebrun, mais Juliette voudrait creuser un peu plus.
Pardonnez-moi, oui, Juliette.
Non,
sur le texte du sketch de début, il y avait marqué jeune buse.
Oui, et vous l'avez récusé.
Je l'ai récusé.
Oui, et vous m'avez proposé jeune ignorante, que je trouve. De toute façon, tant qu'il y a jeune, ça me va. Là, vous venez de dire chieur de mouche, donc c'était les mots employés par certains gouverneurs coloniaux. Il y a une autre expression que je trouve très jolie dans le livre, pour parler donc de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est archipel glacé. Mais inflammable. Est-ce que c'est ce qui résonne le plus en vous et qui vous a donné envie d'écrire ce livre, qui n'est pas un livre de commande,
c'est un vrai choix. Un livre d'amour.
D'amour, oui.
Comme dans la scène que je vous racontais.
Oui.
Mais alors, un instant.
L'amour, il vient de là. Archipel glacé mais inflammable.
Toute mon enfance a été bercée par des récits de Terre-Neuve. Vous avez bien fait la différence.
Oui, bien sûr. Terre-Neuve.
On est à bloc.
C'était des récits d'ascension sociale. Des jeunes gens qui partaient en sabots depuis mon village jusqu'à Saint-Malo avec le baluchon sur l'épaule et puis qui, au bout de beaucoup de saisons de pêche, devenaient capitaine au long cours. Mon enfance a été bercée aussi de récits dramatiques. Les femmes en noir qui voient pendant la saison, des intersignes se manifestaient dans leur maison. Je sais pas, un oiseau mort qui tombe, par exemple, qui annonce la disparition de leur frère, de leur mari, pendant la grande pêche. Et donc, moi, j'ai toujours été passionné par ce pays. Dès que j'ai pu le rejoindre, il y a peu d'années, j'ai essayé d'y construire un récit, mais en ne parlant pas de ce que j'ignore, la vie des pêcheurs, en essayant pas de raconter ce que seuls les archipéliens peuvent raconter. Mais il parle pas facilement de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une seule personne qui a écrit, issue de Saint-Pierre, sur la Deuxième Guerre mondiale, mais elle est en exil en métropole. Et je ne pouvais toucher à l'archipel que par ce sujet que les archipéliens ne veulent pas approcher de trop près parce qu'ils risquent de réveiller beaucoup de blessures et de déchirures. Ça y est, j'ai obtenu une minute de sérieux. Parce que c'est marqué en face de notre bureau la classe de Charline. C'est le chalut permanent.
Jean Lebrun, avant d'écouter un premier disque, une petite question encore, et pourtant elle est vaste, hein, mais il y a un clivage sur cet archipel qui fait que, défiant toute logique géographique, Vichy s'invite sur l'archipel.
C'est-à-dire que l'administrateur qui était républicain en 1940, Bourna. Au moment, il s'appelait Bourna, bravo, jeune lectrice, Bourna, il a choisi Vichy. Parce que ça lui paraissait le plus raisonnable. Mais Vichy n'avait que faire de Saint-Pierre et Miquelon. Vichy s'intéressait plus aux Antilles, qui étaient une autre possession française, où étaient les lingots d'or de la Banque de France, transportés depuis juin 40 en bateau, et où sévissait un proconsul qui s'appelait l'amiral Robert. Bourna, lui, il aurait préféré la neutralité et l'indépendance de Saint-Pierre et Miquelon, mais il avait conçu un accord avec Roosevelt, vous me suivez toujours, président américain. Un accord de neutralité. Nous sommes en Amérique, on va pas bouger, on ne fera rien, on fait semblant d'être dépendant de Vichy. Le général de Gaulle, à Londres, lui était attentif au fait que beaucoup de jeunes Saint-Pierrais voulaient rejoindre Terre-Neuve en bateau, dans le brouillard, avec les galopeurs, rejoindre la France libre. Il avait entendu cet appel, et pour le général de Gaulle, tout territoire, même une teinte d'épingle, même des chiures de mouche, ça méritait, si c'était français, de redevenir français, et donc de redevenir français libre.
Et voilà.
Ce général.
Ici, Saint-Pierre et Miquelon, Jean Lebrun, publié chez Bleu Alentour.
Non, Autour.
Autour, voilà. Je savais que j'allais me foirer.
C'est pas mal comme nom d'édition pour parler de l'Atlantique Nord.
C'est vrai. On est encore là. Bah oui, parce qu'on aime bien. Tiens, d'ailleurs, Frédéric Fromet est persona non grata à Saint-Pierre et Miquelon.
Oui,
parce qu'il a dit à Saint-Pierre, Miquelon est plus sympa, et à Miquelon, c'est Saint-Pierre qui est plus sympa.
Ah, voilà.
Et du coup, il est persona non grata. Donc on lui conseille le livre de Jean Lebrun.
Rien n'est plus loin de Miquelon que Saint-Pierre.
Ah, voilà. Et c'est publié chez Bleu Autour. Ça, j'ai... Ah mais, parce que je suis en contrôle continu, là. Je sais pas si je vais avoir le bac. I know you're real. tout ça pour Jean Lebrun. C'est Djoubaka qui a choisi Jean, c'est pour vous. C'est pour notre Jeannot national. Il est avec nous jusqu'à 18h. Et pour entourer Jean Lebrun, Juliette,
que des hommes, à la hauteur de Jean Lebrun, bien sûr, André Manoukian, Émeric Lomprey. Et bien sûr, puisqu'il le faut, malheureusement, je n'ai plus d'adverbe, Guillaume Meurice.
Et comme dirait Jean, voici l'heure de l'information.
Alors, je vais vous rappeler que le sirtaki est grec, la valse autrichienne, la sardane catalane, le flamenco espagnol, la salsa cubaine et le smurf français.
Le journal de presque 17h17.
Et les veilles
P-E-2-N-Y-D.
Oui, c'est très bas.
Et on commence par les titres.
On parlera d'une idée formidable d'une élue, les Républicains.
Oh, trop bien, j'adore la science-fiction.
On parlera aussi de Yannick Jadot.
Oh, dommage, j'adore le charisme.
Et on parlera enfin d'Émeric Lomprey.
Oh, trop bien, j'adore le cholestérol. Voilà. Et on commence par la justice.
Après une plainte pour soupçon de conflit d'intérêts, une perquisition a eu lieu au ministère de la Justice.
Eh ben oui, une perquisition qui a malheureusement pas permis de retrouver les électeurs ayant voté pour Éric Dupond-Moretti lors des régionales.
Et oui, passons au présidentiel car Yannick Jadot a annoncé sa candidature pour la primaire à Europe Écologie Les Verts.
Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez là, Charles Bonnacker ? Mais c'est incroyable ! Je suis sûr.
Vous êtes vraiment surpris là.
Non, mais vous voyez, j'ai quand même progressé un peu dans mon jeu de la surprise. Que je sais...
Pas tant que ça, non, on va enchaîner. À partir d'aujourd'hui, le congé paternité en France passe de 14 à 28 jours.
Mais où ce gouvernement s'arrêtera-t-il dans les mesures sociales ? C'est une avalanche de justice, de droits nouveaux, je ne sais plus où donner de la tête.
C'est un petit peu mieux là, c'est un peu mieux.
Merci parce que je m'entraîne beaucoup, je fais des efforts. Je suis content que ça paye.
Allez, hier à l'Assemblée nationale, la députée LR Annie Genevard a défendu un amendement pour interdire les danses et les chants traditionnels lors des mariages civils.
Je vois. Et les lacs du Connemara, oui, c'est vrai que c'est insupportable.
Non, c'est pas celle-là qui était visée, non.
Mais si, c'est la musique irlandaise.
Non, c'est pas ça, non.
Ah oui, c'est... on fait tourner les serviettes, elle est interdite.
C'est pas celle-là non plus.
La queue le.
Mais enfin, non, enfin.
Non, mais attendez, me dites pas qu'il était juste visé les chansons arabes.
Vous êtes d'une naïveté touchante, Guillaume, c'est touchant.
Et la Zoubida, du coup, ça marche ou pas ?
Eh bien, bonne question. Ouais. Il y aura certainement un amendement, Vincent Lagarde.
Ah ben, on arrête. Allez, on enchaîne.
Lors d'un sommet international, Emmanuel Macron a déclaré « Je suis féministe ».
Attendez, c'est cocasse, c'est parce que Macron, vous avez dit ?
Ouais.
Il porte le même nom que le président de la République qui a nommé Darmanin, ministre de l'Intérieur, vous avez remarqué ?
C'est lui, en fait. Ouais.
Non, mais c'est pas possible, ça voudrait dire qu'il aurait laissé un mec comme Jérôme Perra, le candidat LREM condamné pour violence conjugale, se présenter au régional.
Enfin, c'est le même, hein, et puis Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté.
Oh là 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 ! Quand le foutage de gueule commence à
trop
se voir.
C'est bon. Merci. Vivement les vacances. Ouais. Éducation à présent, un élève a rédigé toute sa copie de philosophie en morse.
Alors.
Et là, vous faites quoi, Guillaume ? Non. Non mais arrêtez.
Oh, c'est dommage. Mais non, c'est une excellente blague en morse sur les éléphants de mer. Vous l'avez ou pas? En morse.
C'est consternant.
Sur les éléphants de mer. Non, ça, on peut plus rien dire avec vous. J'ai l'impression. Captain Ilou, il sera en prison.
Et voilà, sûrement. Vivement les vacances. Alors, selon les chercheurs de l'université de Copenhague, pour perdre du poids, il vaut mieux pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour plutôt qu'une heure.
C'est faux, Charline, c'est faux. Il faut boire de la bière et se faire teindre les cheveux par un coiffeur aveugle, selon l'Institut Émeric Lomprey.
Et enfin, dans le Lot, une route s'effondre à cause d'une colonie de blaireaux.
Ah, c'est exactement ce qui est arrivé au régional avec La République en marche.
Merci Guillaume Meurice. Nous sommes en compagnie de Jean Lebrun. Abordons ce premier sujet avec vous. Avec Juliette.
Par la grâce des élections régionales, Renaud Muselier est passé de starlette méridionale à vedette nationale. D'abord attaqué pour son alliance avec la LREM, puis promis à une défaite face à son ex-collègue Mariani. Enfin, salué, avec un peu d'étonnement, mais salué quand même. Après tout, il avait lui aussi brisé la mâchoire du RN. Et voyez-vous, le premier étonné, c'est peut-être lui.
Parce que moi... Je ne suis pas une star. J'ai pas assez souffert avant d'être célèbre. J'ai pas assez souffert avant d'être célèbre. Et soudain, j'ai peur que le succès me monte à la tête. Parce que je ne suis pas une star. Je ne veux pas être star, vous comprenez pas, je ne veux pas être star. Et oh, tu fais pas des photos quand je fais des grimaces comme ça.
Vous aurez peut-être reconnu Élie Kakou, le regretté Élie Kakou, c'était un sketch du Point Virgule de 1992, l'année de Maastricht, n'est-ce pas Jean ? Je suis votre meilleur élève. Comment appréciez-vous cette mise en orbite de Renaud Muselier quand vous-même, dans votre livre, il y a une grande partie du livre qui traite du grand-père de Renaud Muselier, Émile Muselier, l'amiral Muselier, qui a été un des gouverneurs nommés par De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, pourquoi Renaud Muselier, président de PACA, est-il allé en visite quasi officielle à la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon? Au-dessus de la résidence du préfet, il y a un drapeau tricolore marqué de la Croix de Lorraine, ce qui est un privilège exceptionnel, Charline. Et la Croix de Lorraine, c'est l'amiral Muselier, le grand-père de Renaud, qui l'a inventé. C'était le chef des forces navales de la France libre, et c'est lui que le général de Gaulle avait envoyé avec Alain Savary à la tête d'une minuscule armada, 3 corvettes et un gros sous-marin, pour organiser en décembre 41 le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre, qu'appelait de ses voeux le général de Gaulle.
Et pour éviter que ce soit un coup d'État, c'était lui qui avait proposé aux Saint-Pierrais de déclarer si, oui ou non, ils étaient d'accord.
Un plébiscite. Il a organisé un plébiscite. Et il faut voir que les Saint-Pierrais, ils sont colonisés d'une certaine manière. C'est une colonie sans indigènes, mais enfin quand même, les colonisés, c'est les Basques, les Bretons, les Normands qui sont venus faire la pêche et qui se sont établis à Saint-Pierre. Ils élisent pas de députés. Ils n'ont plus le droit, depuis 1936, d'élire des maires. Et l'amiral Muselier leur dit, vous avez le choix maintenant, vous allez le jour de Noël 41, une urne est là dans la mairie de Saint-Pierre, dans la mairie de Miquelon. Est-ce que vous ralliez la collaboration ou est-ce que vous ralliez la France libre? Et dans leur immense majorité, du moins à Saint-Pierre, les Saint-Pierrais, évidemment, choisissent la France libre. Et l'amiral Muselier, qui est assez démocrate d'esprit, c'est un bon point pour son petit-fils, a bien marqué. Il a aussi l'habileté de faire voter les garçons, il est question que des garçons et des hommes, hein, bien sûr, Juliette, de moins de 21 ans. Parce que si vous votez oui à la France libre et que vous avez 19 ans, dans l'enthousiasme du résultat du plébiscite, vous engagez aussitôt dans les forces navales de la France libre. Chapeau, l'amiral. Enfin, dans la traversée, il avait perdu sa casquette parce que la corvette était mal gréée et il était arrivé avec une casquette de banlieusard d'aujourd'hui. Saint-Pierre, ça explique peut-être un peu de sa popularité, là-bas.
Ici, Saint-Pierre et Miquelon, par Jean Lebrun, publié chez Bleu Autour. Et maintenant, passons à la musique avec André Manoukian.
Le temps, alors, on parle d'histoire, n'est-ce pas? Et le temps en histoire, c'est quelque chose. Eh bien, le temps aujourd'hui n'est plus une flèche pointée vers le futur. Désormais, on peut faire des boucles, des nouilles, des arabesques, en termes de musique, j'entends, cher Jean. C'est-à-dire, on peut revenir sur une période passée et retracer à partir de là un nouveau chemin musical, son chemin à soi. Et ça, par la grâce d'Internet, c'est ce que fait Annie Lalalove. Un nom comme une friandise qui nous ramène au temps de la soul joyeuse. À la fin des 60s, l'âge d'or de la Motown, au temps de Diana Ross ou des Dusty Springfield, au temps où le bonheur n'était pas qualifié de feel good, autant où on ne savait pas qu'on était heureux. Mais ce n'est pas un choix. C'est parce qu'elle est faite comme ça, Annie Lalalove. Les molécules du bonheur sont incrustées dans les fibres de ses cordes vocales. Alors du coup, sa voix, naturellement, va vers ce pourquoi elle est faite. On ne choisit pas sa musique, c'est elle qui vous choisit, Guillaume. C'est un corps entier qui chante, pas seulement des cordes vocales. De même qu'on n'écoute pas qu'avec les oreilles, mais avec les pores de sa peau, les cavités de son abdomen et les résonateurs de sa tête. On chante de tous ses muscles, ses os, son cœur et ses viscères. Le chant d'Annie Lalalove est un chant qui peut guérir des petits malheurs de la vie quotidienne. Clairement, un folk à la Jack Johnson, un folk joyeux de surfeuse urbaine. Et puis, disons-le tout net, il y a un truc juvénile branché sur l'éternité dans la voix d'Annie. Et ça nous réjouit quand Annie sourit, parce que dans le chant d'Annie, il y a la joie de Spinoza, celle qui nous fait prendre conscience qu'on ne fait qu'un avec tout ce qui nous entoure. Annie nous allège du fardeau de la vie. Et ça, c'est une des principales missions de la musique. Annie Lalalove répond à la question de Jean Kalevitch. La musique est-elle une science ou un charme frauduleux? Les deux, mon capitaine Lebrun. Une science parce que les relations entre les notes sont agencées par des rapports mathématiques. Un charme parce que le musicien, le chanteur, la chanteuse, le joueur de flûte, même Guillaume Meurice, nous, nous envoûte, nous ravit à nous-mêmes, nous enlève la raison. Nous ne sommes plus qu'un épiderme vibrant, une cavité qui résonne, une corde qui vibre sous les coups d'archet, un poil en érection, une moustache géante qui transpire. Le paradoxe du débrief musical de mon boulot, c'est que la musique n'est qu'émotion, donc son ressenti ne passe pas par la tête. Seulement pour débriefer, il faut activer la raison et tenter de donner des arguments objectifs afin que la sensation éprouvée par celui qui écrit soit partagée par celui qui écoute. Mais voilà, nous ne sommes pas faits du même bois. Ce qui me fait vibrer, moi, peut vous laisser indifférent, cher auditeur. Aussi, c'est pour ça que je convoque des esprits supérieurs dans mes chroniques, Jankélévitch, Spinoza, Deleuze, Lacan, Thomas Croisière même parfois. Car l'art le plus futile et le plus profond à la fois. Cette petite chose sucrée et sacrée, ce léger et ce profond, ces ritournelles qui peuvent nous envoyer dans le cosmos ou nous faire sentir la pulsation de la Terre, ces airs insaisissables et furtifs sont peut-être la dernière chose qui nous relie entre nous et à notre humanité et nous font sentir la joie d'être ensemble à nouveau dans des salles de spectacle, des festivals, des fest-noz grecs ou des bars à tapas. Il y a tout ça dans la musique d'Annie Lalalov. Longue vie à elle et on écoute Boum Boum Shak.
I'll make you dizzy at night when we're kissing in the dark. I'll make you coffee again and again. I'll make your heart beat loud in a pocket full of love. You're not alone, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. Yeah, I hate to see you worry. You feel so high, you will be dancing in a cloud. I know your feelings, I know your pain. I make your heart beat loud in a pocket full of love. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone, yeah, yeah. You're not alone. You happy when you wander in the dark. I get the boom boom fever, boom boom shock. The one that makes you happy when you're down.
Voilà, il y a que de l'amour dans la musique d'Annie Lalalov. Elle sort un 6 titres là et en septembre, à nouveau 7 nouvelles chansons. Branchez-vous sur Annie Lalalov. Moi,
merci,
ça y est, je suis électrocutée.
André Manoukian pour cette belle découverte. Merci André. Nous sommes en compagnie de Jean Lebrun. Son émission Intelligence Service est disponible à la réécoute et en podcast. Elle reviendra à l'antenne le samedi 4 septembre. Jean Lebrun est avec nous. Juliette, vous avez une question?
Oui, on sait que vous avez la foi, ce qu'on appelle la foi, Jean Lebrun. Il n'empêche que vous dressez un portrait peu flatteur du préfet apostolique, c'est comme ça qu'on l'appelle, Monseigneur Poisson.
Disons, pour faire simple l'équivalent de voilà, l'évêque de Saint-Pierre, il s'appelle Poisson.
Voilà, il y a un truc très drôle, un graffiti qui était pendant la Deuxième Guerre mondiale sur un des murs de la sacristie et qui disait...
Ben, c'est les Français libres qui l'avaient écrit. On veut te rendre à ton élément, Poisson. Parce que, après le plébiscite, il y a quand même un petit groupe de vichyards, des partisans de Vichy, qui va mettre des bâtons dans les roues de l'amiral Muselier et de celui qui lui succède, Alain Savary. Et à la tête de ce petit groupe, où il y a les gros du quai, les négociants importants, Monseigneur Poisson. C'est drôle quand on est dans une émission comme la vôtre. Je ploum ploum tralala, vous voyez, je m'arrête dans les espadrilles. C'est des émissions qui ont existé, ça. L'oreille en coin.
Oui.
On est obligé d'inventer des histoires pour faire rire les gens. Et quand Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, vient à l'oreille en coin, il rappelle qu'il a été administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et il raconte cette histoire sur Monseigneur Poisson, qui, à mon avis, est inventée. Mais elle est faite pour plaire aux auditeurs, ouais. Charline.
Ça, on ne fait pas, nous.
Alors, Alain Savary dit, on est allé voir Monseigneur Poisson. Et on lui a dit, pour lui faire plaisir, pour qu'il se rallie, lui aussi, à la France libre, « Monseigneur, on va fermer les maisons closes. » Alors, il y a beaucoup de cafés dansants. On aime bien la vie joyeuse à Saint-Pierre. Mais il n'y a pas vraiment de maisons closes à proprement parler. Ce que Monseigneur Poisson répond, il n'y a pas de maisons closes, amiral. « Ça fait rien, » a répondu l'amiral Muselier. « On va en ouvrir pour pouvoir les fermer pour lui faire plaisir. » Typiquement une histoire inventée.
Et on peut dire, dans ces cas-là, bonne réponse de l'amiral. Merci Jean Lebras. Avant de passer à Guillaume Meurice.
Et ben, dernière chronique de la saison, les amis. Voilà, c'est l'heure du bilan. Alors, pas du dépôt de bilan, hein, on n'est pas chez Europe 1. Grâce à qui, d'ailleurs, on a vu Patrick Cohen soutenir des grévistes. On aura vécu assez longtemps pour voir ça. Et je dis merci la vie. La saison a été belle sur France Inter, même si elle se termine par le départ de Nicole Ferroni de la matinale. Voilà, d'un commun accord, comme on dit. Un commun accord qui n'est pas sans me rappeler une certaine Émilie Meunier qui m'a largué comme une merde en quatrième. Hein, mais on n'est pas là pour régler ses comptes à l'antenne. Car pour conclure cette année, j'ai voulu un petit peu d'apaisement. Voilà, il me fallait une personne de nuance, de pondération. À cette personne que vous m'avez réclamée pendant toute l'année, vous me demandiez de ses nouvelles. Cette personne, c'est évidemment Edith. L'ancienne esthéticienne voisine de la maison de la radio où Jean Lebrun a longtemps été se faire épiler le maillot. Mais qui sommes-nous, Jeannot, pour juger? Edith est aujourd'hui en retraite à Marrakech, mais elle garde toujours un œil sur l'actualité française. Ben, bien sûr. Ben, par exemple, la politique, d'ailleurs, on va commencer par ça. Elle a voté au régional.
J'ai voté au régional, ici à Marrakech. Ah. Il y avait beaucoup de Français, hein, énormément de Français.
Mais c'est de l'immigration massive, ça, Edith.
Ah oui, alors là, il y a un problème parce que le roi du Maroc, il a fait une connerie. Il a fait ouvrir les frontières. Il y a 8000 de migrants qui sont arrivés en Espagne. Quelle horreur! Il paye pour pas que les Noirs ils viennent chez nous. C'est vrai ici, même à Marrakech, que c'est chic. Il s'est envahi par les Blacks.
Alors, pour celles et ceux qui me posaient la question, est-ce qu'Edith a changé? C'est non. Hein, c'est, je dirais même que la retraite lui réussit plutôt bien. Alors, puisqu'on parle politique, bah, restons-y. Qui Edith voit pour les présidentielles?
Je vais te dire quelque chose que c'est, tu vas voir, parce que moi je suis un peu médium sur les bords. Bah, moi je dis, moi je suis pas pour Xavier, c'est la droite qui va revenir.
Ouais.
Je pense que c'est la droite qui va revenir là. Mais moi je suis pas pour Xavier, tu sais, j'aime pas les traites.
Mais est-ce que la droite, elle est déjà pas au pouvoir en ce moment?
Ah non, tu trouves qu'elle est au pouvoir, toi, la droite? Bah le Macron, c'est des socialistes, Macron, qu'est-ce qu'il est?
Ah bah oui, ça, on sait toujours pas, il y a un suspense. Hein. Il a supprimé l'ISF, les emplois aidés, baissé les APL, il a servi de Viagra pour Dominique Seux, mais qui nous dit que c'est pas un gauchiste infiltré? Tiens, puisqu'on parle de Dominique Seux, Edith, elle a des copines qui écoutent la matinale.
Elle m'a dit, tu lui diras que quand tu as une interview, allez-vous-en, tu lui diras quand tu as une interview. Non. Ah, c'est les petits. Là, ici aussi, il y a des Roms. Là, on est dans un parc super chic et les gosses viennent m'emmerder. Faut que je fasse attention à mon sac, c'est des voleurs.
Et ben voilà. Edith, restez bien concentrés quand même, Edith. Hein, l'idée, c'est de faire un bilan de la saison, pas se reconvertir en Manuel Valls. Qui aurait été vu d'ailleurs, Manuel Valls, à Lausanne avec un maillot de la Suisse, mardi matin. D'ailleurs, parlons foot, tiens, parce que voilà, c'est compliqué de passer à côté en ce moment. Qui dit foot dit Karim Benzema, évidemment, analyse d'Edith.
La carte, on est joué en Algérie, il est pas bien moins. Il est moins bien payé que le PSG, que c'est le patron, le Qatari. Le patron, c'est Qatar.
Mais Benzema, il joue pas à Paris.
Mais non, mais si, au PSG, il était. Il a repris l'hôte.
Benzema, il joue à Madrid.
Mais s'il est au PSG, parce qu'il a marqué lundi, j'ai regardé.
Non, il est en équipe de France, mais pas au PSG.
Mais c'est ça, l'équipe de France.
Mais l'équipe de France, c'est pas le Qatar.
Je suis comme Sarko, j'adore le PSG.
Oui, d'accord. Chacun ses problèmes. Benzema, il joue pas au PSG. Et Sarkozy va bientôt jouer au FC Fleury-Mérogis, d'ailleurs. Il assure un petit peu les transferts élites. Alors, admettons que le foot, ce soit pas trop son truc. S'il y a bien une chose qui est dite suite près, c'est l'épidémie de coronavirus. Elle prend des cours auprès du professeur Bigard. Elle a donc un avis sur la campagne de vaccination.
Ben, moi, je me ferai pas vacciner. Je parle avec beaucoup de gens très intelligents ici qui ne se font pas le vaccin. Parce que le vaccin, il y a du mercure dedans. Et là, j'ai vu hier cette vidéo, c'est horrible sur les réseaux, ça fait très peur. Les 250 000 Français qui sont des veaux, hein, ils vont carrément à l'abattoir, vous allez tous mourir, ça va être une catastrophe. Tous ceux qui sont vaccinés, ils te bouffent les cellules, tu sais, là, on a des anticorps. dans nos cellules naturelles, eh ben, il y aura des gros problèmes et ça sera, on ne pourra plus les soigner. C'est ce qu'ils disent tous les grands pontes, les pontes de la médecine.
Oui, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site pontedelamedecine.com ou sur Doctissimo, enfin, tous ces sites fiables où tu arrives avec un panari et tu ressors avec un cancer du tibia. Alors, pour terminer ce bilan, quand même avec de l'espoir, moi, j'avais eu une idée quand même pour la France, une option pour la saison prochaine, la candidature d'élite à la présidentielle.
Moi, je me suis tâté pour aller à la mairie de 16e. Tout le monde a dit, on va voter pour Edith. Tous les commerçants du 16e ont dit, on va voter pour Edith parce qu'elle va bien nous défendre, elle.
Eh bien, allez, Edith 2022, là.
Non, mais je ne vais pas faire la politique. Je vais revenir en France pour la politique. Là, certains, je suis trop bien au Maroc, tu rigoles. T'as vu comment ils sont venus, les Français? Ils sont agressifs. Tout le monde dit, c'est des cons, les Français.
Et on se demande bien pourquoi. C'est vrai que là, il y a un mystère. C'est un mystère que j'étudierai la saison prochaine, si on est encore à l'antenne, parce qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre du jour au lendemain qu'on est viré, ce qu'on appelle dans le jargon une Nicole Ferroni. Des bisous à elle, à Edith et évidemment à tout le monde.
Merci Guillaume Meurice. On se retrouve demain quand même.
Ah oui, demain,
pour une émission spéciale.
Oui, hein, mais c'est spécial.
Enfin,
demain.
Normalement, demain on est là.
Il y a des surprises, il y a des surprises.
Jean Lebrun, le président de la République met régulièrement en avant le devoir de mémoire. Et pourtant, sous son quinquennat, la France vit une première, l'encadrement de l'accès aux archives publiques. En votant la loi sur le renseignement, le Sénat vient même de fermer l'accès à certaines archives. Selon l'Association des archivistes français, le gouvernement porte la responsabilité de ce choix historique grave.
Mais il y a un responsable qui a gardé les papiers.
Non, monsieur, ici, tout est informatisé. N'insistez pas, monsieur.
Non, mais moi, il me faut mes papiers, allô. Allez voir à la cave ou au silo, il les mettait toujours au silo, les papiers.
J'ai du travail, monsieur. Je vous conseille de nous contacter sur notre site. Au revoir, monsieur.
Le site? Mais j'y suis sur le site, allô. Alors, je veux mes papiers.
Ne vous énervez pas, monsieur. Vos papiers sont à l'archevêché de La Rochelle. Mais le problème, c'est qu'ils sont en vacances jusqu'à fin août.
C'est Gégé Depardieu dans Mammouth, le film de Carverne et Delépine.
C'est drôle parce qu'il n'y a plus d'évêque à Saint-Pierre-Miquelon, mais l'évêché, il est à La Rochelle.
Ah bon? Bon, on le savait, hein, Jean, on a fait exprès, on a trouvé le son exprès.
Est-ce que pour expliquer cette affaire, qui est de la première importance, puisqu'il s'agit du régalien, vous me laissez une minute.
Je vous en prie, Jean.
Alors, il y a une loi de 2008 qui ouvre plus largement les archives. Et qui correspond aux promesses de Hollande, puis aux promesses de Macron. Monsieur Veto avait promis, on disait ça pendant la Révolution. Un Premier ministre, Édouard Philippe, sort une circulaire interministérielle qui dit « Ouais, on déclassifie, on ouvre plus largement les archives, notamment celles relatives à la Deuxième Guerre jusqu'à la guerre d'Algérie. Mais la déclassification, il faut la faire, vous voyez, manuellement. » C'est-à-dire prendre tous les textes dans les cartons, les uns après les autres, mettre à tampon et demander l'autorisation du service émetteur. Alors ça, c'est le premier problème que le Conseil d'État, dans un arrêt, dans sa grande sagesse, devrait résoudre dans les tout prochains jours. Et puis, ça a quand même provoqué, cette déclassification inutile, une thrombose et la difficulté d'accès aux archives, notamment pour les jeunes doctorants. Et maintenant, il y a en effet cette loi qui est la loi de prévention contre le terrorisme et d'organisation du renseignement, selon laquelle, dans l'article 19, un amendement qui vient d'être voté au Sénat, dit amendement bureau des légendes.
Mais non.
Vraiment. Alors, cet amendement dit, attention, quand ça vient des services de renseignement, délai glissant. C'est-à-dire qu'on se demande si les papiers de Vidocq, chef de la police, pendant la Restauration, ne vont pas être protégés par le secret défense. Ça veut dire que les papiers qui viennent des services de renseignement seraient peut-être interdits. Si l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, vote comme le Sénat et si le Conseil constitutionnel ne casse pas cet amendement invraisemblable. Au motif que il faut pas dévoiler les méthodes des services de renseignement. Ça peut toujours servir pour plus tard. Bon, je vois que j'ai pu apporter un peu de gravité.
Mais bien sûr.
En abordant cette question.
C'est un argument qui s'entend, c'est pas déconnant comme argument de pas dévoiler justement les méthodes des services de renseignement, non ?
Ah, ben vous voilà enfin du côté du gouvernement.
Tout arrive.
C'est quand même une nouvelle.
Ouais. Ajoutons hein, que...
Patrick Cohen défend les grévistes, Guillaume Meurice défend Madame Parly. Et Madame Parly, ministre des Armées, dit que tous les historiens de la Terre, l'Association des archivistes aussi, ce sont, Monsieur Meurice, des opinions dissidentes que je suis heureux de vous voir refuser de rejoindre.
C'est parce que je veux garder mon poste.
En tout cas, les sénateurs PS sont en colère contre cela et donc c'est là qu'on se dit, bah tiens, ça sert encore à quelque chose, un sénateur PS. Voici à présent celui dont les chroniques s'inscrivent souvent dans les annales. C'est donc bien Herbert Lompré.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui,
j'ai rien entendu. C'est ma dernière chronique. Voilà, je m'en vais. Mais alors, c'est pas très grave parce que autre mauvaise nouvelle, on s'en va tous. Voilà. Oui, j'ai lu les extraits du rapport du GIEC sur l'avenir de notre planète. Bon, il y en a pas. Hein. Si vous cherchez le mot avenir dans le rapport du GIEC, il n'est pas là. Hein. C'est comme chercher, je sais pas, le mot solidarité dans le bilan d'Emmanuel Macron ou le mot gauche dans la matinale de France Inter. C'est peine perdue.
Et oh, j'y suis moi.
C'est bien ce que je dis. Alors, on va tous mourir, c'est sûr. Ah, voilà, on peut faire des réunions, on peut faire des séminaires, des COP21, des COP22. Des copes du monde, ça, c'est une bonne vanne. Ça changera rien du tout. Alors moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est vraiment, on profite de la vie. Alors, on mangez, buvez, faites de la tyrolienne, mais dépêchez-vous parce que là, famine, dévastation des cultures, pauvreté extrême, augmentation des températures, montée des eaux. Ciao, bonsoir. On ferme le rideau. Quelqu'un veut encore du pop-corn? Et là, c'est plus de la fiction parce que ça a déjà commencé à Madagascar. 1 million de personnes sont en train de mourir de faim. Voilà. Alors on n'en parle pas trop à cause du Slovène Pogačar qui s'est imposé au sprint sur la 5e étape du Tour de France. Non, on en rigole, mais franchement, c'est, quand on y pense, c'est horrible. C'est, ça veut dire que le Français a regardé le maillot jaune qu'une seule journée. Et ce qui est dingue, c'est que Madagascar, ils sont dans la merde mais à cause de la pollution, alors qu'ils ne polluent pas. Hein, ils ont 3 usines, 2 voitures, 1 appareil à raclette. C'est vraiment eux qui polluent le moins. Quoi. Tellement ils polluent pas, ils ont un bilan carbone négatif. Ils produisent de l'oxygène. C'est pas des gens, c'est des arbres, les malgaches. Alors, ils font de la photosynthèse toute la journée, comme ça. Alors, eux, ils vivaient heureux, ils avaient rien demandé à personne. Et nous, d'un seul coup, on s'est dit, tiens, on va commander des pneus sur Amazon pour les brûler en mangeant du porc industriel dans les assiettes en plastique. Et paf, 1 million de personnes à 9000 km qui n'ont plus rien à bouffer. L'effet papillon. Voilà, c'est plus l'effet mouche à merde. Mais c'est vraiment injuste. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, je courais 10 km et c'est mon voisin qui a des courbatures, quoi. Là, c'est, enfin, le contraire. Parce que je sais pas vraiment ce que ça fait de courir 10 km. Hein. Je ne peux pas courir 10 km. Hein, sinon, je meurs. Et là-bas, ils mangent de la boue. En vrai, hein, c'est marqué dans le rapport de l'ONU. Bon, ils font des gratins de pommes de terre sans pommes, de la soupe de terre. Et bien entendu, le plat traditionnel, le terre-à-terre, hein, le plat qui te ramène à ton quotidien. Alors, évidemment, on va pas les laisser comme ça. On est en 2021. L'humanité est solidaire et unie. Plus jamais ça. Never that. Ça, Che Guevara. Alors, tenez bon, on arrive. Emmanuel Macron a déclaré, la France met en place un pont aérien d'urgence pour venir en aide aux Malgaches. Ah non, je déconne, non. Par contre, vous avez vu, il a fait un prout enflammé dans la dernière vidéo de Squeezie. Quel joyeux luron, notre président. Non, désolé les Malgaches, on va rien faire pour l'instant. Vous êtes encore un peu trop dodus pour le journal de 20h. C'est plus photogénique avec les omoplates qui dépassent et les mouches dans les yeux. Alors on fait un petit effort, hein, on arrête de se gaver de cactus si on veut rentrer dans son cercueil pour l'été. Le programme alimentaire mondial a demandé 78 millions de dollars pour les aider. Alors 78 millions de dollars, ça paraît beaucoup, mais c'est 0,04% de la fortune de Bernard Arnault. Hein, vous vous rendez compte que Bernard, il peut inviter tout Madagascar au resto pendant 6 mois, qui verra même pas la différence. Je vous avais dit, c'est pas une chronique très rigolote, hein, mais on vit dans un monde rigolo, hein, c'est ça. Alors moi, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien du soleil. Il faut que j'y aille parce que j'ai un avion dans 2 heures. Je vais au Club Med de Madagascar. Ils font des tarifs imbattables en ce moment. Faut juste fermer les yeux quand tu survoles le pays, sinon tu savoures un peu moins tes vacances. Mais vous inquiétez pas pour moi, il reste de l'eau pour les touristes. Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, merci. On vous a senti très investi dans cette chronique et on vous invite d'ailleurs à la partager sur tous les réseaux.
Oui,
merci Aymeric Lompré.
C'est grave.
Et on vous retrouve demain également. Jean Dujardin incarne Nicolas Sarkozy au cinéma dans un film d'Anne Fontaine intitulé Président au pluriel. L'autre président, c'est François Hollande, incarné par Grégory Gadebois. Il s'agit d'une comédie politique. Une comédie politique! En la matière, le cinéma ne pourra jamais être plus drôle que la réalité. Rien que pour Sarko, c'est injouable de faire mieux que l'original.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Bon, pas vous, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Je vous respecte, mais enfin, écoutez, franchement, enfin, c'est grotesque. qu'est-ce que ma réponse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire à une fable pareille? Non, mais je vous en veux pas, mais enfin, écoutez, franchement...
C'est pas Jean Dujardin, là, c'est vraiment Nicolas Sarkozy. Ah ouais, en conférence de presse à Bruxelles en juin 2009, interrogé à propos de l'affaire, on a le choix, Karachi.
Ah ouais.
Jean Lebrun, ce film qui sort sur les écrans, Président au pluriel, où Jean Dujardin incarne Nicolas Sarkozy, cela suscite votre intérêt?
Ben, ça me rappelle surtout des souvenirs. Bon, un des plus beaux films, c'est celui tiré du livre de François-Marc Benamou sur les derniers temps du président Mitterrand. Mm-hmm. Et c'était Michel Bouquet qui incarnait Mitterrand. Il n'y a aucune ressemblance entre Michel Bouquet et Mitterrand. Il n'y a pas non plus beaucoup de consonance idéologique, parce
Que
je ne pense pas que Michel Bouquet appréciait beaucoup la gauche. Mais il y avait de très 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 belles scènes, et notamment celle qui n'était pas centrée sur le dialogue, mais simplement sur l'image. Michel Bouquet rangeant ses archives. Enfin, François Mitterrand préparant son déménagement de l'Élysée. Et puis, il y avait une image pour moi qui résume le rôle du président de la République, Guillaume Meurice.
Ah oui, ça m'intéresse. Ça,
une voiture, une route de France, dans le Massif central, une route en lacet, et la voiture qui chemine comme ça, pour aller vers un restaurant, parce que Mitterrand commandait des repas à l'avance dans les restaurants qu'il aimait. Et ça, pour moi, ça représente la représentation, c'est simplement cette image. Et le plus grand interprète pour moi de président, et lui non plus n'était pas ressemblant, c'est Maurice Garrel. Maurice Garrel, le grand Maurice Garrel, l'ancêtre de toute la tribu Garrel.
De Louis et Philippe.
voilà. Et il avait joué de Gaulle au Théâtre National de Strasbourg, avec très très peu de mots, simplement sa silhouette, l'ombre et la lumière que dessinait cette silhouette. Et il parlait très bien du désert, Maurice Garrel. Et le général de Gaulle, il a traversé le désert pendant la période de 1946 à 1958.
D'où l'expression qui est beaucoup utilisée aujourd'hui.
L'homme du désert. Mais, il disait aussi, le général de Gaulle, notamment à propos de Saint-Pierre-et-Miquelon, « Je suis un homme sur lequel il a beaucoup plu ». Et Maurice Garrel, je trouve qu'il incarnait l'homme sur lequel il a beaucoup plu, dans le désert, avec très très peu de mots. Voilà.
Et comme disait François Hollande, gouverner, c'est pleuvoir. Bien sûr, et la boucle est bouclée.
Il disait ça dans une île.
Oui, c'est vrai. Jean Lebrun avec
nous. Un autre Saint-Pierre-et-Miquelon.
Juliette Arnaud, vous avez un questionnaire de Par Jupi Proust à soumettre à Jean Lebrun. Vous avez du temps, allez-y, faites-vous plaisir.
Sur l'échelle de l'historien le plus célèbre, 10 étant Michelet, 0 étant Laurent Deutsch, qui est historien comme je suis ingénieur hydraulique, à combien vous situez-vous?
Qui, moi?
Oui.
Ah ben moi je suis pas historien, je suis juste passeur d'histoire.
Ah d'accord, donc vous ne voulez pas être sur l'échelle de l'historien?
Ah non, si j'avais voulu être historien, je ne serais pas en train de faire le zouave à la radio.
Mais vous avez quand même une agrégation d'histoire.
Oui, mais enfin, une agrégation d'histoire, okay. J'ai été le Benjamin il y a de ça 50 ans.
Bon d'accord, ok, vous n'êtes pas sur cette...
Alors vous voyez, il y a longtemps que je ne le suis plus.
Vous avez dit que la nostalgie est un péché capital pour un historien. Bon, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, puisque vous n'êtes pas historien, mais bref.
Oui, mais je fréquente beaucoup d'historiens, parmi les meilleurs.
Mais alors quoi, c'était pas mieux avant?
Mais non, un historien, c'est celui qui est tendu vers l'avenir. Non pas qu'il soit chargé de le prévoir, parce qu'il en est bien incapable, mais c'est celui qui attend l'avenir. L'historien, c'est celui qui guette les choses qui mettent beaucoup de temps à mourir et les choses qui mettent beaucoup de temps à naître.
Oh là là. S'il vous plaît.
Oui, André Manoukian, on a compris.
Je ne suis pas sûr que ce soit de moi, mais enfin, je ne sais pas qui c'est.
On va dire que c'est de Jean Lebrun. Brassens aurait voulu vivre entre 14 et 1500, et vous, à quelle période auriez-vous aimé vivre?
19e siècle. Mais enfin, du bon côté. Hein.
Oui.
Pas du côté que connaissaient mes parents, qui étaient plutôt domestiques, ou ouvriers, ou agriculteurs médiocres. Oui, j'aurais bien aimé un petit château, vous voyez, au 19e siècle, et la vie retirée.
Comme dans Un roman au passant.
Oui, la vie de Tocqueville, mais j'ai pas le génie de Tocqueville, vous voyez.
D'accord.
Hein, la correspondance, et puis recevoir ses amis dans une maison d'une grande simplicité, mais d'une simplicité qui touche au luxe.
Parfait. Question Frédéric Fromet. Attention, cette question contient un ou des jeux de mots. Vous feriez pas une émission dans laquelle vous raconteriez des salades qui s'appellerait la mâche de l'histoire? Voilà.
Oui.
Oui. Non. Ouais. Peut-être.
Oui. 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 Bien sûr, parce qu'on invente pas mal, vous savez. On invente pas mal en histoire. Peut-être j'ai fait une invention pour Saint-Pierre-et-Miquelon. On parlait d'Alain Savary qui en a été l'administrateur. J'ai rêvé qu'il y avait un buste de lui à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais vraiment, je l'ai rêvé, je le vois, ce buste. Je l'ai même trouvé moche. Eh bien, il paraît qu'il n'y en a pas.
Et voilà, Jean Lebrun fume, et donc...
Mais non, c'est un propos performatif. Ils vont en installer un.
Oh, bravo.
Bravo
Jean Lebrun, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver Jean dans le 13-14 pour le Vif de l'Histoire, à 13h54 jusqu'au lundi 5 juillet. Intelligence Service revient à la rentrée et disponible en podcast, à la réécoute. Et Jean Lebrun publie ici Saint-Pierre et Miquelon chez Bleu Autour, et on vous le recommande chaleureusement, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup Jean. Je vous dis à demain avec toutes les têtes à claques de l'émission en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la ZICMU. Il reste quelques places à réserver sur maisondelaradio.fr. Préparez vos plus jolis masques car on attend au moins 700 personnes en jauge pleine.
C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.